Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonsoir à tous, vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire de Syllab, et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Avec moi ce soir, il y a Cécile, bonsoir.
Bonsoir.
Alexis, bonsoir.
Bonsoir.
Alex.
Bonsoir.
Et Jean à la technique. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
On vous rappelle comme chaque semaine que vous pouvez commenter l'émission en direct sur notre page Facebook J'irai cracher sur vos ondes. Au programme de cette émission, Cécile ouvrira l'émission par une chronique. De quel ouvrage vas-tu nous parler ce soir ?
Je vais vous parler du fanzine Le Seul Décor par Coco, le collectif.
Ensuite, nous serons ce soir avec Maël Le Goff, directeur du festival Mythos, dédié aux arts de la parole, qui aura lieu à Rennes du 31 mars au 9 avril et dont nous allons parler en milieu d'émission. Enfin, Alex, tu vas nous parler de théâtre, toi ?
Oui, exactement.
Tu vas nous parler de quoi exactement ?
De la pièce de Gorky, donc montée en scène par, mise en scène par Éric Lacascade, Les Bas-fonds.
D'accord, mais avant, que se passe-t-il dans l'actualité littéraire rennaise ? Demain, jeudi 16 mars, les Champs Libres organisent une rencontre entre Isabelle Appéré, bibliothécaire aux Champs Libres, Philippe-Jean Catinchy, critique littéraire au journal Le Monde, et Isabelle Tréorel de la librairie Greenwich à Rennes, pour croiser les regards de différents professionnels de la littérature sur les 517 romans de la rentrée littéraire. L'événement se déroulera à 18h30. Toujours demain jeudi, mais cette fois-ci à Sciences Po Rennes, une conférence est organisée autour de l'œuvre de Boris Vian et sera suivie d'un débat. L'événement se déroulera à partir de 18h15 dans l'amphi Erasme. Enfin, la bibliothèque de l'université Rennes 2, le département d'italien et le CELAM vous invitent à visiter l'exposition La Primavera del Libro, les Italiens et le livre imprimé à la Renaissance. L'occasion de découvrir des ouvrages du fonds ancien de la BU en italien ou traduit, et vous avez jusqu'au 28 avril pour y faire un tour. Mais Cécile, nous t'écoutons tout de suite pour ta chronique.
Le Seul Décor, donc, c'est un fanzine qui aujourd'hui compte 2 exemplaires. Le premier, voici ce qu'on peut y lire au dos. C'est un fanzine de 15 textes illustrés, d'expériences sur les gays, le cul, les rencontres pas trop cool et celles un peu plus cool. On te raconte ça comme si on était avec toi, avec pas trop de pudeur. On retrouve aux textes Talgis et aux illustrations Kahn. Et le second ouvrage, celui dont je vais probablement le plus parler, c'est un ouvrage qui reprend les codes du premier, mais qui s'est un peu enrichi. En lieu et place d'un auteur et d'un illustrateur, on en a 15 pour les deux tâches, 30 paires de mains au total. De même, le fanzine s'est doté de majuscules, augmentant la dose du sel comme décor. On y trouve toujours des histoires qui parlent encore de rencontres, encore de cul, mais ce ne sont plus des histoires de gays. Avec le nombre est venue la différence, la diversité et la pluralité. Le Seul Décor, c'est maintenant l'expérience du corps et du vécu sentimental par 30 personnes d'âge, de sexe et de sexualité différentes. Fin de citation. Plus besoin d'avertir les lecteurs sur l'impudeur d'un autre seul auteur, c'est tout un panel de pudeurs qu'on va découvrir. Quelques noms qui en font écho particulier à mon oreille pour ce deuxième ouvrage. On trouve au dessin le sergent Pousse, Ibi et Silver, tous les trois connus en tout cas par moi lors de la découverte du projet 17 mai, un projet sur internet réunissant plusieurs planches pour parler de la journée dédiée à l'homosexualité et à la défense de ses droits. Et au texte, j'ai trouvé curieusement Monsieur Q, qui initialement est un blogueur de bande dessinée et d'illustration, et Jack Lang, pas le politique, non, celui qui tient le blog Just For You. Je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est pas piqué des hannetons. Mais avant de goûter le sel de ces fanzines, avant d'humidifier vos doigts d'un coup de langue pour mieux pénétrer les pages, avant d'aller plus au fond des choses, on va commencer par des préliminaires. C'est un peu plus sympa, quand même. On va rester en surface, apprécier ces petits corps fins et délicats. Le petit sel et le grand corps. On a beau dire que la taille compte pas, ça aide quand même à se faire un petit peu une image. On a donc ces petits carnets qui mesurent 11 cm par 18, un papier fin et tout doux. Le deuxième est un peu plus épais, 100 grammes quand même, c'est correct. On apprécie. Et enfin, une charte graphique vachement sympa. Tous les deux sont bicolores. Le premier a choisi un vert sombre, sympa, un petit peu tableau de maître d'école. Pas le blanc qui pue le Véléda, non, on parle de celui qui sent la craie, poussiéreux. On apprécie. Et qui se combine à un rose flashy, fluo, bien clair, ça pète bien. C'est sympa, les deux se contrastent extrêmement bien. Tandis que le second, lui, a choisi un violet d'un prune bien foncé, presque noir, on pourrait dire, qui s'allie à un jaune pétaradant, bien clair, qui est à mon sens vachement intéressant, mais j'y reviendrai plus tard. Ce ne sont pas des volumes purement bichrome ou bicolore. Ce sont des volumes qui ont été imprimés en risographie. C'est un petit procédé qui est vachement cool. Imaginez la sérigraphie. Si vous n'êtes perdu, on a fait une superbe émission dédiée à un festival de sérigraphie au tout début de l'année. Pour ceux qui nous rejoignent, la sérigraphie, c'est le principe de creuser une planche pour imprimer plusieurs fois une seule couche d'encre là où la planche a été creusée. Donc là, il y a toujours ce principe d'imprimer une couleur à la fois, sauf qu'on peut imprimer plusieurs couches de couleurs les unes après les autres. Donc là, je pense que c'est le jaune qui a été imprimé avant le violet. Pour le rose et le vert, je ne m'avancerai pas. Et l'intérêt de la risographie, c'est qu'on met ça dans une imprimante normale. Et enfin, s'il y a beaucoup plus précis que de plaquer manuellement une feuille d'encre sur un support. Et on a aussi un effet de trame. Alors la trame, si vous voyez les mangas avec ses passages et des petits points plus ou moins denses qui permettent des effets d'obscurcissement ou des effets assez clairs pour habiller le décor, c'est tout à fait ça. Et ça donne un petit grain, une petite pâte un peu artisanale, tout à fait délicieuse. Donc, je vous laissais déjà entendre que je préférais le deuxième volume pour son violet et son jaune, car le premier, en fait, travaille beaucoup le rose comme un éclair, une espèce de couleur charnelle qui vient un peu donner du corps au vert sombre. C'est sympa, mais c'est très linéaire, quelque part. C'est parfaitement exécuté par le dessinateur, mais bon, au bout de 15 numéros, on se lasse. Moi, j'aime bien la nouveauté. Et donc, le second est vachement plus intéressant à ce niveau-là, du fait du nombre de dessinateurs qui ont été convoqués pour le réaliser, mais aussi parce que le jaune, il y a eu tout un travail de la part de beaucoup de dessinateurs sur le fait que le jaune est parfois difficile à percevoir. Et on trouve souvent dans la surimpression des dessins cachés. Donc souvent, un corps qui subitement se retrouve nu et couvert de liquide, par exemple, de sueur ou autre chose, on ne sait pas, on ne saura jamais. On voit également des personnages qui se regardent face à face en violet sombre, tandis qu'au-dessus d'eux flottent des esprits beaucoup plus libres et beaucoup plus discrets. Enfin bref, c'est vachement pratique pour lire ça dans le métro, sans trop se faire griller. Mais bon, là, mine de rien, j'ai déjà commencé à fourrer ma main dans le livre, je l'ai ouvert, le voilà, les pages sont écartées, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là qu'on commence les choses sérieuses. À l'illustration fait face le texte. On trouve une charte graphique très rigide, mais vachement sympa, à savoir le texte en un bloc sombre, donc le vert foncé ou le violet, bien unifié, qui fait face, qui fait corps. Il est surmonté du numéro du texte en question. Donc on commence par le numéro 1 dans le premier volume, et on a une succession parfaite puisque le deuxième volume s'ouvre sur le numéro 16. Le titre est centré, le texte défile, mais il n'est pas seul ce petit texte. En fond, comme une tache, comme projeté, comme un graphe en décor, on retrouve le titre, comme tracé en pinceau, de cette couleur claire. Donc le volume 1 à ce niveau-là est un peu plus intéressant puisqu'il se contente d'avoir pour titre le numéro 1 et on doit deviner le thème du texte qui est caché derrière donc, les phrases. Le premier, comme je vous le disais, un peu plus néer. Pour les illustrations, c'est également le cas pour les textes qui font en fait une typologie des mecs que l'auteur a rencontrés, du moins le suppose-t-on, dans un style très trash mais relativement lyrique. Et comme pour un souvenir du premier volume que vous n'avez peut-être pas connu, chers auditeurs, je vous laisse goûter à la lecture du premier texte qui ouvre le second volume, donc écrit par les deux premiers, écrit par le premier auteur. La rupture. T'essayes d'écrire sur des mecs que t'as à moitié oubliés. Des mecs qui ont trop perdu de leur saveur. Tu ressasses des visages froids et des couilles molles que tu griffonnes maladroitement dans un carnet usé. Usé comme toi. Toi et ta bouche pâteuse de tabac avant de sucer une queue. Ta gueule grise et ton cul déjà trop flasque. En fait, t'es aussi fat que les vieux souvenirs que des vieux mecs dans lesquels tu as pu jouir. Tes histoires de cul au micro-ondes, ça emmerde. Toi aussi, t'es rance. On t'oublie et on te jette. Parce que toi non plus, t'as plus de saveur. J'ai plutôt laissé d'autres gens raconter leurs histoires cette fois. On devine déjà ce qui va suivre tout en se remémorant ce qui s'est passé. J'aime bien, je suis fan. Et donc pour terminer vite fait sur le second volume, ça sera difficile de vous résumer tous les styles qui sont présents. Sachez en tout cas que ça va du poème en vers libre à la reconscription bête et simple de souvenirs jusqu'à la reconscription des petits SMS que l'on s'échange avec le plan cul qu'on vient de rencontrer sur Internet. Enfin bref, le sel décor, c'est à goûter et en tout cas, c'est savoureux.
Merci Cécile pour cette chronique. On rappelle une dernière fois le nom du fanzine, le sel des corps. Et on va faire une pause musicale tout de suite. On écoute La fille électrique d'Aline.
Vas-y chérie, fais-moi la guerre. Griffe-moi, couds-moi les paupières. Il est tard, on s'ennuie. Trouvons vite un hôtel. Tes mains chahutent et se faufilent. Oh, tes yeux gourmands me vandalisent. Oh, ma jolie, tu me vois venir. Oh, dans ton viseur comme une cible. Oh, vas-y chérie, fais-moi l'enfer. La vie électrique nous appelle. Du frottement de nos corps jaillira l'étincelle. Tes seins se gonflent et se révèlent. Oh, ton cul se bat mais se promène. Oh, ta bouche humide se réveille. Oh, quand je te dis du bout des lèvres. Allez monde, je te suis, y'a le jour qui se lève. Prends bien ton temps, la vue est belle. À chaque marche, mes yeux se perdent. Une seule décharge et je crève. Oh. Vas-y chérie, fous-moi en l'air. La vie électrique nous entraîne. Les deux doigts dans la prise. Je veux voir des éclairs. Je boirai l'eau trouble à la source. Oh, de celle qui coule entre tes cuisses. Oh, je lècherai ta peau comme un ours. Oh, avide de miel, un délice. Oh, allez monde, je te suis à le jour qui se lève. Bien ton temps, la vue est belle. À chaque marche, mes yeux se perdent. Encore une décharge et je crève. Oh.
Chérie, pique-moi les antennes. Un champ magnétique nous protège. Le courant continue, nos câbles se resserrent.
Vas-y chérie, fais-moi la guerre. Griffe-moi, couds-moi les paupières. Vas-y chérie, fais-moi l'enfer. La vie électrique nous appelle. Allez monde, je te suis, y'a le jour qui se lève. Prends bien ton temps, la vue est belle. À chaque marche, mes yeux se perdent. Encore une décharge et je crève. Oh, oh. Allez mon, je te suis, à le jour qui se lève.
Vous écoutez toujours J'irai cracher sur vos ondes. On vient d'entendre La fille électrique d'Aline. Et avant de retrouver notre invité pour parler du festival Mythos, nous allons passer à la chronique d'Alex. Nous t'écoutons.
Il y a le Gorki hugolien et le Gorki célinien, mais c'est un Gorki vulgaire qu'Éric Lacascade a décidé de mettre en scène pour cette nouvelle adaptation des Bas-fonds de Maxime Gorki, montée pour la première fois en 1908. Cette vulgarité peu commune en a assurément perturbé certains qui n'en sont pas habitués, et pourtant, il n'est pas si mal que ça les ait remués de leur siège. Outre un génie véritable démontré pour le clair-obscur, Éric Lacascade fait de nouveau du théâtre une place publique où des personnes, et non des personnages, s'avancent et bouffonnent entre élévation et redescente. L'humour et le tragique de cette nouvelle adaptation avait néanmoins reçu le dédain des plus âgés d'entre nous. Et même si l'espace du dedans et du dehors en a perturbé plus d'un, ce jeu semble néanmoins en avoir fait jubiler bien d'autres. C'est par un jeu d'îlots et dans une difficulté presque enfantine qu'Éric Lacascade se lance à produire un spectacle. Le jeu des mouvements, simple, s'allie à la colère. Tout ceci autour d'un même thème, l'homme. Cette adaptation, traduite par André Markovitch, proclame un théâtre humaniste, où le vulgaire ne s'attend plus au quotidien. Dans la même scène, on peut trouver la philosophie et on a autant de place avec des bons « ta gueule ». Lacascade avait déjà été le metteur en scène des Estivants, du même Gorky, et de Oncle Vania de Tchekhov. Donc les pièces russes, elle connaît. Mais pour les Baffons, il s'affirme avoir voulu la profondeur du plateau, comme il dit. En effet, le spectateur devient continuateur de la pièce, il est co-créateur. Et prolonge par lui-même le mouvement infatigable. Encore de Lacascade. Éric Lacascade ajoute aussi à cette mise en scène une précarité des formes et des styles. Il ajoute aussi que ces formes ne devraient jamais s'installer, que c'est au spectateur de continuer la pièce et de l'interroger. C'est un théâtre du réel. On peut le remarquer tout au long de la pièce. Le réel dégage de ce monde, l'imaginaire prend la place. Alors, quel théâtre ? Un théâtre du réel, un théâtre du symbole. Ce qui est certain pour cette pièce, c'est que c'est un gros coup de gueule. C'est une réflexion qui a permis de centrer les bas-fonds au cœur de la société et des bas-fonds de l'âme humaine. De la misère morale, de tous ces pauvres qui viennent dans cette pièce pour quelques nuits, trouver un abri, ils viennent là et on sent cette présence. Dans cet asile, il faut que ça joue. Il y a donc le marchand de sommeil, le jeune couple qui tente de survivre, il y a l'acteur, on la voit encore une mise en abîme du théâtre, et Luca. Luca, c'est la figure christique, celui qui est venu de nulle part, celui qui bouleverse cette vie misère dans cette pension par des vérités qui nous affligent, telles que l'amour, la vérité et l'espoir. C'est à la fois une interrogation très cruelle sur la façon dont on vit face au manque de liberté, manque de culture. C'est une pièce sur l'empêchement, sur la foi et la croyance. C'est une galerie de portraits qui viennent et qui s'affichent à présenter comme des corps qui, debout, viennent s'offrir aux comédiens et aux spectateurs. On sent qu'Éric Lacascade essaie d'ouvrir sur la forme. Cette pièce, comme elle travaille sur la précarité, permet de changer sans cesse d'espace, de formes et de vues. C'est aussi une pièce donc, qui parle de théâtre, entre un compromis entre mensonge et vérité. C'est un théâtre comme on l'aime, comme on le voit dans la rue et comme on aimerait bien la voir aussi dans la vraie vie, par donc des formes de saints et à la fois des formes de monstres. Pour tout dire, cette mise en scène joue à la fois entre le rock'n'roll et le romantisme, mais n'ayez crainte, même si les bouteilles de bière se déversent sur la ville, il y a toujours une place pour le théâtre.
Merci Alex, et c'est une pièce qui est encore jouée au TNB ?
Oui, en effet, oui.
Jusqu'à quand est-ce que tu
Alors,
sais
jusqu'à fin mars, voilà, et ensuite ce sera Bâle de Brecht.
D'accord. Voilà. Et on va faire tout de suite une pause musicale, on va écouter Arthur H, Adieu Tristesse.
Je t'ai croisé un samedi soir et j'ai jeté sur ta silhouette une poignée d'épices colorées. Mon but était clair, t'envoûter tout en restant libre moi et libre toi, car le roi de l'amour n'a plus besoin d'esclaves. Adieu, adieu la nuit. Adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui a tant pleuré. Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit. Et le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour. Alors nous sommes séparés comme déjà saturés des délices du futur. Et j'ai marché seul, guidé par ton ombre. J'ai traversé la ville déserte, encore étincelante du voyage. La nuit,
tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui a tant pleuré, adieu, tout est fini, adieu les larmes, adieu la nuit. Je t'ai croisé un samedi soir et déjà j'aimais l'odeur de ton rire. Et le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour. Oh, adieu, adieu la nuit, adieu, adieu, adieu. Adieu tristesse, adieu les larmes, adieu la nuit, adieu, oh, adieu, 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 tout est fini, adieu les larmes, adieu la nuit, adieu, adieu.
Écoutez toujours, j'irai cracher sur vos ondes, sur Syllabe. On vient d'entendre Adieu Tristesse d'Arthur H. Et nous devions avoir un invité ce soir, Maël Le Goff, pour nous parler du Festival Mythos. Mais comme il n'arrive toujours pas, eh bien, nous allons parler littérature, improviser sur des livres que nous avons lus, en espérant qu'il vienne au moins 10 minutes pour qu'on lui pose 5 questions. Les amis, de quoi allons-nous parler ? Vous avez tous des lectures à proposer ? Cécile, par exemple ?
Oh bah, j'aurais bien continué sur le sel décor, puisque c'était très difficile de choisir une seule lecture. Donc je vous propose la numéro 19, qui va parler de poulet. On t'écoute. Je me rappelle qu'il était courbé en avant, ses coudes posés droits sur la table. Il dégageait une sacrée assurance. Moi, j'avais le dos enfoncé dans ma chaise, redoutant l'instant où le bois rentrerait dans ma peau. J'avais envie de le faire trébucher ses coudes pour me jeter sur lui. Mais je n'arrivais même pas à le regarder, le nez penché dans mon assiette. 6 bouts de poulet pataugeaient dans une sauce rose. Pour moi, le poulet, c'est le dimanche midi chez les parents, où la carcasse fière siégeant entre les haricots verts en conserve et la laitue aux échalotes. Ce mercredi soir-là, le vert provincial qui accompagnait habituellement mon poulet avait laissé place à ce rose parisien, ce rose pédé. Quand on vit à la campagne, on ne pose pas de questions. On aime les filles et on sort avec. Une fois, j'étais tombée sous le charme d'un mec qui avait fini par m'oublier. Depuis ce jour, je savais. Anonyme, dans ce restaurant parisien, déculpabilisé de tout gaspillage, j'ai alors légèrement poussé mon assiette restée intacte et mes yeux se sont posés sur lui, son regard comme seul repas. J'ai toujours été convaincue que les yeux reflétaient notre âme d'enfant, mais en devenant adulte, la plupart des hommes la délaissent bêtement. Je n'aime pas aimer bêtement. Lui, il avait la pupille qui brille, celle qui n'a pas oublié et qui ne m'oubliera pas. Un jour, je tenais son sexe dans ma main. Délicatement, j'ai retiré son prépuce pour libérer son gland. Il était aussi rose que la salade du poulet.
Merci Cécile. Alex, tu as aussi un extrait du sel décor à nous lire.
En effet. Le numéro 1. Si c'était un animal, ce serait un chien. Parce que c'est sale, les chiens. Puis la plupart du temps, ça pue aussi. Alors lui, il puait. Il puait pas vraiment comme un chien que... C'était pas une odeur à proprement parler. Plus comme une sensation qu'il dégageait. Bref, il puait sans puer quoi. Puis il baisait comme un chien baise. Je sais pas si t'as déjà vu un chien baiser, mais c'est pas joli, joli. C'est rapide, urgent même. C'est sec et marginal. En même temps, c'est passionné. Mais pas la bonne passion, tu sais. La passion trop forte, limite dégoulinante. Cette passion avec des grosses veines apparentes sur un front rouge et luisant, dégueu.
Merci Alex. Alexis, en ce moment tu lis quel ouvrage?
Alors je lis un ouvrage qui s'appelle Un troussage de domestique de Christine Delphi qui a coordonné l'ouvrage. Je vous lis un passage pour vous le résumer et après je chercherai un autre passage à vous lire parce que là j'en ai pas sur la main. Nous avons réuni ici quelques-uns des textes écrits par des féministes au cours des premières semaines. Pas sur l'affaire judiciaire elle-même, pas sur le fait de savoir si DSK est ou sera déclarée coupable ou non coupable. Non, le sujet de ce livre, c'est ce que ces réactions unanimes de la classe politico-médiatique disent de la société française, de ses dirigeants et de ses journalistes aujourd'hui en 2011. Des cœurs meurtris des amis ont surgi des cris d'une sincérité rare qui, perçant le mur de la langue de bois, nous ont révélé la vérité de ces cœurs. Ils sont remplis d'une misogynie dont la profondeur n'a d'égal que leur arrogance de classe.
Merci Alexis. Tu peux nous rappeler le titre de l'ouvrage, s'il te plaît ?
Un troussage de domestique.
On va faire une pause musicale maintenant. Jean, est-ce que tu peux nous lancer la musique de Thilassine Poli ? Thilassine qui sera présent au Festival de tous.
Thank you.
On vient d'entendre Polly de Thylacine sur Syllab. Vous écoutez, j'irai cracher sur vos ondes. Et nous désespérons d'attendre Maëlle Le Goff, qui, nous pensons, ne viendra jamais. Nous n'allons pas parler plus de Mythos. Peut-être que nous aurons l'occasion de le refaire sur cette antenne. Merci aux chroniqueurs d'être venus et d'avoir fait de belles chroniques et d'avoir fait de belles lectures. Merci à Jean, à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau du festival Polyphonie avec Cécile qui a rencontré deux auteurs.
Alors, lesquels ? Une autrice et une comédienne, Claude Bert et Frédéric Wolff-Michaud.
Voilà, donc nous parlerons poésie mercredi prochain à 19h. Nous nous excusons pour l'interruption de notre émission, mais comme notre invité n'est jamais venu, eh bien, nous ne pouvons pas continuer de meubler. Donc à la semaine prochaine pour une émission complète, nous l'espérons. Bonne soirée à tous.
Bonsoir.